Europe 1, il est 7h43 en ce 14 juillet, même si les militaires ne défilent pas. Ils sont présents sur la place de la Concorde, une armée bien différente aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. Et pour en parler avec vous, Pierre de Villeneuve, Guillaume Fard, maître de conférence à Sciences Po, il y enseigne l'économie de la sécurité et de la défense. Il est aussi le co-auteur du livre Le Continuum de sécurité nationale, quelles externalisations pour demain, paru aux éditions Hermann.
Externalisation et non pas privatisation, le note. Bonjour Guillaume Fard.
Bonjour.
En effet, cette armée aujourd'hui n'est pas celle de 1990. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne fait plus du tout la même chose ?
En tout cas parce que son mode d'organisation lui a changé. Les armées françaises pendant 200 ans, et vous citez les années 90, si on revient 200 ans en arrière, c'est la Révolution française, et pendant 200 ans, elles avaient un modèle d'organisation où elles faisaient tout elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Elles avaient leur propre service de restauration, leur propre maître tailleur, leur propre
les maîtres tailleurs, ça existe encore. Hein.
Ça existe encore, mais c'est hélas en voie de raréfaction. Et d'ailleurs, l'habillement avait failli être externalisé. Alors il s'en est fallu de peu pour que Jean-Yves Le Drian, en 2012, ne dise que finalement on ne le confierait pas au secteur privé, mais il y avait plusieurs entreprises qui avaient concouru un gros appel d'offres pour justement gérer l'habillement des armées. Donc même sur cette question-là, effectivement, progressivement, les armées ont abandonné certaines missions qu'elles faisaient elles-mêmes, qu'elles assuraient elles-mêmes au secteur privé.
En tout cas, les bottiers, ça n'existe plus, ça c'est
non,
sûr.
Non, les bourreliers non plus.
Et d'ailleurs,
il y a quelques métiers
beaucoup
rares
de soldats se plaignent de la qualité des Rangers. Vous ne parlez pas de privatisation d'externalisation, j'entends, mais pourquoi se poser la question ? Qui a parlé de privatisation ?
Se pose la question du rapport au secteur privé ou de travailler avec le secteur privé ou de faire des partenariats publics-privés, en toile de fond, il y a souvent la question de la privatisation qui est un peu brandie comme un épouvantail, en fait, comme si les armées seraient à vendre. Non, les armées ne sont pas à vendre, rien n'est à vendre. En revanche, il y a un modèle qui se transforme et on voit bien que sur certains sujets assez essentiels pour la continuité du service que doivent assurer les armées, bien le secteur privé. Et là, parmi ces sujets les plus récents, il y a notamment la question du transport et du transport stratégique, du transport dit tactique. En clair, qui peut assurer la logistique dans des gros avions, des gros porteurs? On voit bien que pour amener du matériel sur des théâtres d'opérations extérieures, s'il n'y a pas les Antonov, ces énormes porteurs qui sont offerts ou proposés par des sociétés, notamment ukrainiennes, on voit bien que les armées françaises sont en difficulté pour assurer ces missions-là. Donc, le secteur privé devient un compagnon de route. Alors, pendant très longtemps, on ne voulait pas travailler avec lui au sein des armées. Puis progressivement.
Mais par éthique, on ne sait même pas de l'éthique, c'est une
non,
sorte de principe.
C'est un principe, un principe, je crois que le mot est juste, c'est un principe. C'est le poids d'une histoire, c'est le poids de tradition. Si pendant 200 ans vous avez tout fait vous-même, le jour où il faut faire avec d'autres que vous, vous n'y êtes pas nécessairement accoutumé.
Alors j'entends bien, on ne critique quand même pas la cantine Sodexo, ou le fait de louer des appareils ou des hélicoptères plutôt que de laisser s'entasser des gazelles qui vieillissent et qui à la fin menacent de s'écraser. Ce qu'on craint aussi peut-être, et corrigez-moi, ce sont les fuites des renseignements.
Oui, alors dans certains cas, effectivement, vous disiez perte d'informations stratégiques. Si vous confiez la restauration à un opérateur privé, la formation stratégique, c'est vous savez ce que mange un militaire au petit déjeuner, mais ça s'arrête à peu près là. Maintenant, si vous confiez des missions qui sont plus sensibles, par exemple de l'exploitation d'images satellites, par exemple, ça existe. Effectivement, se pose cette question-là. Les industries de défense, elles sont habilitées au secret de la défense nationale et elles sont pas censées transmettre des informations comme ça à n'importe qui. Donc il faut aussi.
Mais du coup, c'est quoi les garde-fous ? Il y en a ?
Il y a des garde-fous. Il faudrait qu'il y en ait davantage, parce que s'il y avait une stratégie de la part du ministère des Armées pour penser ces externalisations, on pourrait aller encore plus loin. Mais parmi les garde-fous, il y a s'assurer de la nationalité déjà des entreprises avec lesquelles on travaille. Plus les domaines vont être sensibles, plus on va être proche des opérations extérieures, plus on va être proche de la dissuasion nucléaire, plus les entreprises avec lesquelles on va travailler, on va restreindre la variété de ces fournisseurs.
Donc ça veut dire qu'en majorité elles sont françaises, ces entreprises.
En majorité elles sont européennes. Après, sur les sujets les plus sensibles, elles vont être françaises. Et puis si vous rentrez, et je le disais, sur la question de l'habilitation au secret de la défense nationale, notamment pour les entreprises qui vous fournissent des systèmes d'armes, on va être très restrictif sur l'information que ces entreprises pourraient partager avec les armées.
On a en France une loi de 2003 qui interdit des mercenaires qui sont des soldats privés. Est-ce que cette loi, c'est un garde-fou suffisant ? Et puis d'un autre côté, on voit que les Russes et les Américains, eux, se privent pas d'en engager.
En fait, il faut d'abord resituer effectivement cette loi dans son contexte. Loi du 14 avril 2003, invasion de l'Irak, par qui qui par les Américains, avec qui, avec des mercenaires à leur côté, ou en tout cas des sociétés qui s'y apparentent. Et on pense notamment à Blackwater. Il y a eu des événements assez violents à Fallujah où des personnels de ces sociétés militaires privées américaines ont été lynchés par la foule qui leur était très hostile. Et à ce moment-là, la France envoie un message d'exemplarité, comme sait le faire la France, à la communauté internationale, en disant, bah, écoutez, le mercenariat, c'est un truc d'Américains, de Russes, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui concerne la France. Probablement d'ailleurs que si la révision constitutionnelle de 2008 avait eu lieu plus tôt, ça aurait pas été une loi, mais une simple résolution, parce que c'est une loi qui est assez complexe, difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas qui dénote d'un principe, qui est pas de mercenaires en France.
Il n'y en a pas.
Alors après, on a des sociétés qui, sans faire du mercenariat, sont des sociétés qu'on appelle des ESSD, un acronyme un peu barbare qui veut dire entreprise de services de sécurité et de défense. En clair, des entreprises qui vont fournir des services aux armées françaises, comme de la formation, du déminage, de la fourniture.
Mais c'est quoi la plus-value d'un mercenaire? On a quand même, nous, des soldats aguerris, on a le commandement des opérations spéciales. Enfin, c'est...
Pour les armées françaises, un mercenaire, aucune, puis d'abord, c'est illégal. Maintenant, fournir un certain type de service, comme par exemple, vous évoquiez la question de la fourniture d'heures de vol d'hélicoptères. Ouais. Est-ce que pour l'entraînement, notamment sur le sol national, c'est aux armées de posséder leurs hélicoptères et d'assurer l'entretien, la maintenance de ces machines, etc. Ça, c'est un service de défense. On est très loin du mercenariat, ça n'a strictement rien à voir. Mais néanmoins, la plus-value, c'est que vous ne payez que ce dont vous consommez, par exemple. Si vous prenez le cas de ce qui se passe à Dax, à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre, bien l'armée française ne paye que les heures de vol qu'elle consomme. Et puis c'est l'entreprise privée qui doit louer ses hélicoptères à d'autres, par exemple au cinéma, pour des prises de vue aériennes, quand les armées ne les utilisent pas.
L'économie de l'armée, c'est un sujet. Marine Le Pen, dans un message en ce 14 juillet sur YouTube, demande au gouvernement d'avancer les commandes du secteur industriel de la défense pour sauver notre économie.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a un secteur qui est hypersensible aux restrictions budgétaires. Et qu'à chaque fois que les armées, notamment, ont fait appel...
Blanc, ouais.
Alors, exactement. En fait, des livres blancs, d'ailleurs, on a vu que le rythme s'est accéléré. Hein. On a suite 94, on a suite 2008, puis après, il y en a un qui sort tous les cinq ans. Jusqu'à la dernière revue stratégique, ça s'appelait plus livre blanc. Mais en tout cas, les constats sont un peu toujours les mêmes. C'est la transformation du contexte géopolitique, donc il faut s'adapter. Et l'adaptation, elle est souvent plus budgétaire que stratégique. Et c'est ça aussi la difficulté. C'est qu'on voit bien que la tension budgétaire fait qu'on va vouloir parfois, et un peu dans la précipitation, réorganiser les armées. Il y a peu de ministères qui se sont autant réformés en France que le ministère de la Défense devenu ministère des armées. Et alors qu'en réalité, il faudrait peut-être qu'il y ait une stratégie d'abord et des ajustements budgétaires ensuite. En France, on a parfois tendance à faire l'inverse.
Bon, et alors il y aura peut-être une évolution sur ce sujet ?
Bah en tout cas, cette évolution, elle s'inscrit un peu dans le sens de l'histoire, parce que aujourd'hui, le débat, c'est plus tellement on est pour, on est contre que les armées travaillent avec le secteur privé, c'est plus comment faire avec.
Oui.
Parce que dans un contexte où, même s'il y a une loi de programmation militaire qui a été votée, même s'il y a une trajectoire budgétaire qui est à peu près respectée depuis 2017-2018...
On pourrait lister toute une série d'entreprises, comme Safran par exemple, qui a l'habitude de travailler avec les armées.
Et ensuite définir surtout toute une série de missions pour lesquelles on dirait ces missions-là, bien on pense qu'on peut, dans certaines conditions, mais qui reste à bien définir, les confier au secteur privé. Et ça donnerait une feuille de route. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, 14 juillet, on parle beaucoup de défense, mais on peut aussi parler un peu de sécurité, se pose les mêmes questions au même moment et attend un livre blanc pour le mois de juillet.
Eh bien, merci de toutes ces explications précieuses en ce 14 juillet. Merci Guillaume Fard.
Avec plaisir.
On peut lire votre livre, Le Continuum de Sécurité nationale, aux éditions Hermann.